17h07 sur France Inter, l'événement, je le répète, c'est si tu écoutes, j'annule tout, Charline Van Den Ecker.
Oh, dites donc.
Je
pensais que vous alliez faire un cran au-dessus.
Oh là, le Big Bang, non.
De l'événement, le grand événement, que tout le monde attend. Allez-y, faites des. Franchement, vous présentez les infos, en faire des caisses, vous savez ce que c'est quand même.
Oh non.
Oh là là, dites donc. Oh, il y a une coupure, j'ai perdu Agnès Soubira, en tout cas on la remercie pour ses informations. Prochain point à 18h, bien sûr. En attendant, voici comment nous avons préparé cette émission. Salut les amis.
Salut Charline.
Allez, plus que 3 jours.
Moi, je n'en peux plus.
Ah, moi, j'adore. Plus ça approche, plus les gens ils disent des conneries.
Bon, d'accord, mais qu'est-ce qu'il faut faire?
Ah bah, nous, on vote pas.
On est belges.
Ok, mais moi, je dois voter quand même.
Ça, c'est la merde. Moi, je serais pour le vote utile.
Mais utile pour qui?
Si tu votes Macron, t'as plus de chances d'éviter le second tour Fillon-Le Pen.
Sauf si Mélenchon est au second tour, du coup.
Et pourquoi au second tour?
Eh bah, parce que des gens qui voulaient voter utile, ils auraient pas voté Hamon pour mettre la gauche au deuxième tour.
Oh, ça, c'est fini.
Donc, on aurait un deuxième tour Mélenchon-Macron.
Non, mais sauf si les gens votent utile à droite. En se disant qu'ils veulent pas d'un deuxième tour sans la droite. Donc au lieu de voter Fillon, il voterait Le Pen.
Waouh, ça c'est malin.
Bon,
ça,
alors on a un deuxième tour entre qui et qui?
Ça sera parmi les quatre.
Ah oui, parmi les quatre.
Ça j'ai compris, mais moi je vote pour qui?
Elle a raison, il faut mettre en point une stratégie à 3 balles.
Ah oui, on y va.
Il faut spéculer sur un vote utile et jouer contre.
Par exemple,
alors tu penses qu'il y aura un vote utile en faveur de Macron. Alors t'essayes de lui donner le meilleur candidat en face pour le second tour.
Oh, c'est compliqué.
C'est compliqué, mais pour disqualifier Fillon, tu votes Le Pen.
Mais tu veux pas voter Le Pen.
Elle veut Mélenchon. OK, alors c'est simple. Tu mises sur un vote caché Fillon, qui retire des voix à Le Pen, et sur une fin de campagne plus centriste de Mélenchon, qui reprend des voix à Macron, ce qui pourrait le disqualifier, et donc tu votes Fillon.
Mais je veux pas voter Fillon.
Mais pour préparer le deuxième tour.
Je prends rien. Oh non, je veux plus voter.
Non.
Tu votes pour qui tu veux.
Oui, c'est pas bête.
Ça, j'avais pas pensé, c'est une bonne idée.
Donc je peux voter pour qui je veux.
Mais
ok, Jean Lassalle.
La stratégie est foutue en l'air.
J'en peux plus. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui arrose les fleurs de l'actualité. Voici les 3 informations qui vont s'épanouir jusqu'à 18h.
C'est bucolique aujourd'hui.
Je fais les gestes en même temps. S'épanouir. Les seniors sont les plus nombreux à aller voter. Ils vont décider de notre avenir. Et ils votent beaucoup François Fillon, mais leur choix se porte aussi sur Emmanuel Macron.
Le petit prince est en marche. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci mamie.
La gauche et la droite nous parlent très différemment de la culture. Quand elles en parlent, elle n'est jamais envisagé la culture comme moteur de la transformation sociale, mais parfois encore, elle s'étale.
Il serait pas temps que t'envisages ta retraite, Alain?
Mais où ça?
À la campagne.
On est resté pendant des années devant Courbet, Degas, Miro, Chiricot. Tu crois qu'on peut regarder une poule?
Le magazine Society a recueilli le témoignage de plein de Français de toutes les régions à partir de cette question. Quand avez-vous été heureux en France pour la dernière fois? Le début d'une longue introspection.
J'aimerais comprendre là où ça a commencé à merder chimiquement dans ma vie.
Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui envisage la culture comme instrument et moteur de la drague. C'est Alex Vizorek.
Je vous en prie, dénoncez-moi. Alors qu'autour de la table, il n'y a que des hommes qui sont là pour vous, Charline Van Den Ecker.
Oui, c'est vrai.
Je vais vous les présenter. 17h20, quand Hitchcock a aidé sa nièce qui étudiait le cinéma à analyser Vertigo, la petite a obtenu seulement un B. C'est pourquoi ici, on ne lui demande pas d'analyser ses films, mais tout le reste, c'est vous, Thomas Bidguin.
Eh oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Et je viens vous parler de ce soir. D'anticipation.
Très bien.
C'est beau ou pas?
17h30, aucune étudiante en journalisme n'est jamais venue lui demander de l'aider pour un devoir en déontologie du métier. C'est Guillaume Meurice, bonjour.
C'est bien dommage. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Mais moi je suis allé au meeting de Marine Le Pen, figurez-vous, au meeting donc de la France apaisée. Apaisée mais d'extrême droite.
Ces gens-là sont pas d'extrême droite quand même.
Bah, je sais pas.
Moi j'ai une gueule d'extrême droite.
Et 17h40, il serait brillant en professeur, car il a des réponses définitives à des questions qu'on aimerait ne jamais se poser. C'est lui, c'est Pablo Mira. Bonjour.
J'aime même mieux. Salut Alex, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser de plus près à nos amis abstentionnistes. Ont-ils une âme? Les abstentionnistes font-ils le jeu de Daesh? Les abstentionnistes veulent-ils kidnapper nos enfants pour leur faire du mal dans les bois? On se posera toutes ces questions que je me suis posées bien après avoir eu les réponses, bien sûr, Alex.
Et voici celui qui a tout annulé pour nous. Vous êtes auteur, comédien et metteur en scène, mais lequel
qualificatif que vous préférez, c'est conteur d'histoire. Vous démarrez au théâtre, Irina Brooke vous met en scène dans Juliette et Roméo. Vous avez alors 18 ans et elle vous donne le goût de la mise en scène. Votre première pièce en tant qu'auteur est un immense succès, le porteur d'histoire. Vous êtes aussi le co-scénariste de la série Kabul Kitchen et vous avez joué dans des téléfilms et au cinéma, aussi notamment dans Sagan de Diane Curis. Vous êtes...
Je suis Alexis Michalik.
Oh là là, c'est lui.
Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout.
Bonjour Alexis Michalik.
Bonjour Charline, vous allez bien?
Mais très bien, et vous? Alors, vous êtes très très classe, vous avez mis cravate, c'est exceptionnel.
Oui, je reviens du ministère de la Culture, nous sommes retrouvés entre nommés aux Molières. Oh. C'était très sympathique, il y a eu un petit discours de la ministre, voilà, en vue de la cérémonie qui se déroulera le 29 mai.
Et nous, on était au self pendant ce temps-là.
Mais vous êtes très classe aussi.
Et vous êtes nommé dans toutes les catégories quasiment.
Toutes, ils ont dû inventer deux catégories pour nous placer. Non, pas du tout, on est nommé dans sept catégories, ce qui est déjà génial, et on est très contents. À savoir meilleure pièce, meilleure comédie, révélation masculine pour Guillaume Santou, meilleur second rôle pour Pierre Forest et
meilleure catégorie.
Meilleure catégorie, effectivement. Là, ça y est, j'en ai déjà perdu deux ou trois.
Vous êtes l'homme du moment au théâtre, Alexis Michalik. Il y a notamment la pièce Edmond au théâtre du Palais Royal.
C'est là qu'a toutes les nominations cette fois-ci.
Exactement, voilà. Il y a aussi le porteur d'histoire qu'on peut voir au théâtre des Béliers parisiens du jeudi au samedi. Et puis à partir du 27 mai, le cercle des illusionnistes au théâtre de la Pépinière Opéra.
Qui reprend.
Exactement. Alex Vizorek, vous connaissez bien l'œuvre d'Alexis Michalik.
Moi, j'en ai vu deux sur les quatre, parce qu'il y a Intramuros qui arrive aussi. Si quelqu'un n'a jamais vu du Michalik, parce qu'on parle beaucoup de vous, ce serait quoi le style? Comment vous vous décririez?
Je dirais que j'essaie de faire du théâtre populaire et exigeant. C'est-à-dire que j'essaie de faire en sorte d'intéresser à la fois des gens qui ont l'habitude du théâtre et des gens qui ne sont jamais allés au théâtre. Et de leur montrer, de leur prouver, de leur démontrer que le théâtre n'est pas forcément un vecteur d'ennui.
Vous faites ça en détricotant les codes, parce que chez vous, les acteurs jouent parfois plusieurs personnages. Il n'y a pas un vrai respect de l'unité de lieu, parce que vous apportez un lit et on est dans une chambre et ça suffit. Est-ce que c'est ça parfois qui a sclérosé le théâtre, c'est de peut-être trop le respecter?
Non. Je pense que moi, je suis pour l'existence de tous les théâtres. Ça, c'est sûr et certain. Plus il y aura de théâtres différents et plus l'offre culturelle est riche et variée. Et
même les pièces de Laurent Ruquier?
Mais même les pièces de Laurent Ruquier, surtout les pièces de Laurent Ruquier. Vous savez, les pièces de Laurent Ruquier, bah, c'est super parce que ça remplit, les gens payent leur place, ça fait de mal à personne, ça prend pas d'argent public. Hein, et puis l'argent que ça dégage va permettre de financer d'autres spectacles. Donc tout ce système-là, il est essentiel.
Et de faire travailler des intermittents.
Évidemment, etc. Et puis si ça satisfait un public, c'est que ça mérite d'exister.
Non, mais si un fonctionnaire va voir un spectacle de Laurent Ruquier, est-ce que c'est de l'argent public? Une question que je pose.
Faut lui demander, c'est vrai, c'est une bonne question.
Vous faites travailler plus d'intermittents que Florian Zeller. Parce que dans vos pièces, il y a plus de monde sur scène.
Ouais, il y a du monde sur scène. Ouais. Mais j'aime bien le concept de troupe, en fait. Moi, je suis un homme de troupe. J'aime constituer une équipe. Et donc, effectivement, j'aime bien que les acteurs... Moi, je suis aussi acteur. Donc, je sais ce que c'est d'être sur scène et de jouer une scène et de retourner attendre pendant une demi-heure en coulisses. C'est pas très agréable. Hein. Tous les acteurs, ils veulent jouer. Donc, j'essaie de les exploiter au maximum et donc de leur donner des armes et du plaisir.
Il y a un côté ballet, parce que c'est vrai que tout le monde passe. Les acteurs principaux apportent parfois un objet du décor. Donc c'est vraiment plus une troupe que quelqu'un qu'on met en avant, même si évidemment Guillaume Santou est brillant.
Oui, bien sûr. Et c'est un travail de troupe. C'est bon, c'est, je suis pas le seul. Enfin, j'ai rien inventé. Hein. Quand on voit le théâtre de Mnouchkine, c'est ça. Hein. Tous les acteurs qui amènent les décors, c'est magnifique. C'est un ballet.
Vous êtes dans le privé, vous?
Je suis dans le privé. Et puis j'ai un peu moins de monde sur scène quand même. Mais, et puis je fais des spectacles qui sont un petit peu moins longs parce que ça correspond aussi à une logique de privé. Mais évidemment, c'est tous ces grands metteurs en scène du subventionné, Brooke, Mnouchkine, Simon McBurney, s'il va dire. Enfin, il y en a plein auxquels j'ai piqué plein de trucs.
Et vous rendez hommage à un vrai théâtre populaire, ouais, dans Edmond, parce que vous nous expliquez comment est née la pièce Cyrano. Alors je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, là où vous avez ajouté des choses. Mais c'est ça, tout est crédible. On y voit passer Fedot aussi. Donc voilà, il y a un amour du théâtre que vous voulez rendre.
Bien sûr, dans Edmond, c'est un hommage au théâtre. C'est même globalement même un hommage à ce qu'il y a de plus merveilleux en France, je trouve. On y reviendra tout à l'heure sur le troisième sujet.
Ça rend heureux.
C'est la francophonie, c'est la langue française, c'est des choses merveilleuses qui ont été faites. Edmond, ça se passe à la fin du 19e siècle et on croise effectivement Fedot, on va croiser Ravel, on va croiser des grands compositeurs, des grands auteurs, et c'est notre patrimoine et c'est ce qui fait qu'effectivement effectivement, en sortant de la pièce, il y a des gens qui disent ah, mais c'est marrant, je me suis senti bêtement un peu fier d'être français ou d'être parisien ou d'être ou de me raccrocher à ce temps extraordinaire où bah oui, la France c'est aussi ces choses merveilleuses auxquelles j'essaie de rendre hommage.
Et on va en reparler aussi en parlant de la définition de la culture tout à l'heure et aussi de ce qui rend heureux. En tout cas, la pièce Edmond au Théâtre du Palais Royal semble rendre heureux beaucoup de gens.
Si vous trouvez une place, parce que c'est compliqué.
C'est du mardi au samedi à 21h, le dimanche à 16h, avec Guillaume Santou, donc dans le rôle d'Edmond Rostand. Absolument. Et puis il y a le Porteur d'Histoire au Théâtre des Béliers Parisiens, du jeudi au samedi à 19h, le dimanche à 15h. Et plus tard, vous pourrez voir le Cercle des Illusionnistes et la dernière pièce qui est en...
Intramuros, qui est en tournée et nous partons tranquillement jouer à La Réunion à partir de vendredi. S'il y a des réunionnais qui nous écoutent.
Mais bien sûr, Intramuros. Évidemment, ils nous écoutent. Allez voir Intramuros d'Alexis Michalik qui est avec nous jusqu'à 18h. On va parler un peu de politique, un peu de culture et un peu de ce qui nous rend heureux en France.
Beau programme.
Jumping, Marcia Griffiths sur France Inter, la programmation musicale de Djoubaka. Notre invité, c'est Alexis Michalik, l'homme du théâtre, l'homme du moment, avec Edmond notamment au Théâtre du Palais Royal. Et pour entourer Alexis Michalik,
le boys band officiel.
Les G-Squad du service public.
Guillaume Meurice, Thomas Bideguer et Pablo Mirin.
Et nous, assis au dernier rang de la rédaction de France Inter, nous avons préparé un journal d'information comme les grands.
Je ne céderai pas.
François.
Je ne me rendrai pas.
François.
Le journal de presque 17h17.
J'irai jusqu'au bout.
commence par les titres.
Invitée chez Jean-Jacques Bourdin, Marine Le Pen s'est laissée aller à quelques confidences en avouant qu'elle avait une passion pour les chats depuis toujours.
Oui, sauf pour les chats persans qui sont iraniens dont elle milite pour leur accompagnement à la frontière.
François Fillon a décidé de cibler l'âge d'Emmanuel Macron en déclarant « Ce serait compliqué dans une société qui vieillit d'avoir toute une partie de la population non représentée. »
Faire le procès à Macron de ne pas s'intéresser à la population qui vieillit, c'est un affront pour les chats.
Et des brèves.
Le vote utile, c'est la brève.
Pour son passage à l'émission de TF1, Demain Président, exactement, Marine Le Pen a demandé qu'on retire le drapeau de l'Union Européenne qui était posé à ses côtés.
Exactement, sans doute ça lui rappelle qu'elle doit de l'argent à l'Union Européenne.
Et que TF1 est aux ordres aussi. Hein.
Quoi, oui.
Et oui. Signe de l'époque, les candidats à la présidentielle se sacrifient tour à tour à une interview Snapchat.
Snapchat, ça va très vite. La question puis la réponse. Et quand on demande à Marine Le Pen, eh bien, on lui présente le défi de chanter sa chanteuse préférée. On y va.
J'ai mis de l'or dans mes cheveux, un peuplé de noir sur mes yeux.
Eh bien, The Voice, on a eu envie de voter. Hein. Marine Le Pen a donc oublié qu'elle était égyptienne. C'est donc une arabe, Dalida, on le rappelle, hein, c'est important.
Et ça compte pour le temps de parole de Dalida. Hein.
C'est
temps.
François Fillon, de son côté, était face au lecteur du Parisien et il a ironisé sur ses démêlés judiciaires en déclarant
« J'ai une Ferrari cachée dans une grange. Il la cherche, mais il la trouve pas. »
Et oui, c'est de l'information, si elle s'avère exacte. Le scoop, c'est que François Fillon possède une grange.
Le Figaro.fr pose cette question aujourd'hui dans l'un de ses articles. Pourquoi le nombre de demandeurs d'asile en France a bondi de 20%?
Eh bien, parce que la guerre. Et à ce propos, les actionnaires du Figaro devraient savoir que Dassault gagne un max de thunes avec ça. Donc, reposez peut-être la question demain.
Justement, Philippe Poutou veut supprimer le défilé du 14 juillet s'il est élu.
Voilà, si vous aimez les marches militaires, les tanks, pas d'inquiétude, rendez-vous le 14 juillet sur les Champs-Élysées.
Passons à Thomas Thévenoud, oui, et sa phobie administrative. Il comparaît à partir d'aujourd'hui au tribunal. Et
j'espère qu'il est guéri, parce que sinon, quand le juge va lui demander de décliner son identité, il va peut-être se mettre à baver, être pris d'une crise de convulsion. Donc attention, on te soutient, Thomas.
International, oui. Selon une étude, les troubles mentaux sévères connaissent une hausse significative aux États-Unis.
Vu le résultat des dernières élections présidentielles, on s'en serait douté.
Les États-Unis, c'est le pays où tout est possible. Même avec des troubles mentaux, vous pouvez réussir votre vie.
Voilà, devenir président de la République américaine, malgré tout.
Effectivement. Économie, incertitude sur la présidentielle. Une banque suisse conseille d'échanger ses euros contre des francs.
Voilà, que Marine Le Pen arrête de dire qu'aucune banque ne la soutient, parce qu'il y en a qui veulent déjà appliquer son programme. Donc c'est chapeau.
Astronomie, oui. Un gros astéroïde va frôler la Terre ce mercredi soir.
Jacques Cheminade, mon gars, si tu veux faire quelque chose dans cette présidentielle, c'est ton moment.
Et des brèves.
D'abord, cette info, Paris, un couple tente de s'introduire dans un commissariat.
Ah, on sait qui c'est?
Non, mais on sait que ce n'est pas Marine Le Pen et Louis Alliot qui trouvent ça très étrange qu'on veuille s'introduire volontairement dans un commissariat.
Dans les Côtes d'Armor, un bistrotier va offrir un verre dimanche prochain à chaque client qui aura voté.
Ce qui serait beaucoup plus sympa, c'est d'offrir un verre à chaque client avant qu'il aille voter. Mais voilà, ils n'ont pas eu cette idée.
La dernière,
Oise, libéré après 7 ans de détention, il est interpellé sur le parking de la prison.
Pas de bol.
À peine sorti, le jeune homme avait insulté le juge d'application des peines et proféré des menaces de mort contre les forces de l'ordre. S'agit du temps de récidive le plus court de l'histoire.
Allez, ce premier sujet avec Alexis Michalik. Les seniors vont aller voter en masse parce qu'ils sont les plus politisés et les plus sûrs de leur choix. C'est ce que nous expliquait l'Opinion en une hier. C'est pourquoi François Fillon garde encore espoir. Macron aussi parvient à séduire les plus de 65 ans. En revanche, comme Benoît Hamon, lui, compte plutôt sur les jeunes, il a tout intérêt à décourager les vieux d'aller voter. Et pour ça, il a une technique. Vas-y, Benoît.
Dites-moi, madame. Est-ce qu'il y a dans votre entourage, ici parmi vous, quelqu'un qui vous rend souvent visite ou quelque chose comme ça?
Oh, ben j'ai des connaissances et je suis bien surtout avec tout le monde et on m'appelle mamie et...
Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait trompeler, mamie Tromblon, hein?
Quand je suis rentré, j'ai tout de suite vu sur la table la boîte de ses dockers. Et je ne sais pas si tu sais... Mais une boîte de Cédocaire, c'est un médicament pour les gens qui souffrent du cœur. Donc ici, j'ai foutu une trouille bleue, ce qui me permet d'éviter de gaspiller une balle, tu vois.
C'est l'autre Benoît Poulvorde, dans cette arrivée près de chez vous, bien sûr. Donc, le journal L'Opinion nous disait en une hier, présidentielle, l'élection entre les mains des seniors. Alors, les candidats nous ont d'abord fait comprendre que les ouvriers tenaient la clé de cette élection. Puis les médias nous ont dit que c'était les indécis qui tenaient la clé de cette élection. Et maintenant, c'est les plus de 65 ans qui tiennent la clé de l'élection. Comme pour le Brexit, un peu, c'est vrai. Hein. Alors, c'est une réflexion intéressante, ça, finalement. Les seniors vont décider de l'avenir de la France. Est-ce que ça déclenche aussi une réflexion chez vous de se dire, est-ce qu'on vote en pensant à ses enfants? Est-ce qu'on vote en pensant à soi? Qu'est-ce qu'on fait quand on vote qu'on est senior? Quand on sait qu'on peut influer?
C'est surtout une bonne question. Pourquoi est-ce qu'on vote? Enfin, je sais pas. Pourquoi est-ce que votent les jeunes? Les jeunes votent pour l'avenir, mais les seniors, pourquoi ils votent?
Eh oui.
Non, c'est intéressant. Hein. Je pense qu'au contraire, c'est un vote égoïste. Moi, à mon avis, plus on se rapproche de la fin, et plus on dit, bon, en fait, j'en ai rien à foutre.
Carpe diem, je fais ce que je veux.
Le Brexit, c'est bon, écoutez, allez, c'est bon, ne m'emmerdez pas, moi, je veux être tranquille dans mon jardin.
Mais il pourrait aller dans les deux sens, ce vote égoïste, parce que c'est peut-être des gens qui ont fait 68 et qui se disent, allez, maintenant, le grand soir, je vais voter pour.
Ouais, peut-être, mais je sais pas, non, c'est, a priori, c'est plus sain. C'est
pour ça, Daniel Cohn-Bendit, par exemple.
Apparemment, Fillon et Macron se partagent un petit peu les votes des seniors. Alors Fillon, on comprend et donc Fillon, mais non, on l'a dit.
Pourquoi on comprend, Charline?
C'est parce que c'est la vieille droite.
C'est le conservatisme.
Mais si c'est pas pourquoi Macron? Macron, c'est le gendre idéal, je pense.
Mais non, mais ils ont surtout le même programme économique en fait. Et les vieux, ils pensent avant tout à leur pognon. Ils ont exactement le même programme économique.
Moi, je pense qu'ils regardent juste le visage du candidat.
Les vieux?
Oui, parce que Macron, voilà, c'est un candidat
qui est très propre. Moi, je pense qu'ils ne voient plus rien, mais parce qu'ils sont vieux, c'est une hypothèse.
Et surtout, Macron, ils parlent pour les bien payés. Alors, ça,
c'est vrai, ils l'entendent. Mélenchon parle fort aussi. Hein.
Ce qui veut dire à François Fillon, on en a parlé dans notre petit journal, ce qui fait dire à François Fillon, mais comment les seniors vont-ils voter Macron alors qu'il est jeune, il ne va pas tenir compte des vieux, etc. Donc, il s'arrache vraiment les seniors, il court derrière. C'est amusant. Alors, autre question.
On a Thomas, peut-être, autour de la table qui peut nous indiquer.
Tu vas voter Macron.
Ça me semble la meilleure des solutions. Vous savez que l'âge moyen de l'électeur à la dernière présidentielle, c'était 57 ans.
L'auditeur d'Inter.
L'auditeur d'Inter.
Alors,
moins 10.
Il y a quelque chose qu'on a éprouvé, qu'on a déjà entendu ici, c'est je vote Macron pour ma fille. Par exemple, j'ai entendu ça, mais moi je vote
Fillon pour mon Mac.
Non, attendez, je vous développe la chose. La personne qui dit moi j'aurais voté Hamon, mais je suis un père responsable et pour l'avenir de ma fille, je crois que je vais plutôt voter Macron. Et là, la fille est en face, elle dit oui, mais papa, moi j'aurais voté Hamon. Donc, est-ce qu'il faut voter, quand on vote pour ses enfants, est-ce qu'ils font voter pour ce qu'on croit être meilleur ou le candidat pour lequel les enfants voteraient?
Et qui a raison? Est-ce que c'est ceux qui sont âgés et donc ils savent parce qu'ils sont passés par une vie ou ceux qui justement ne savent pas? Moi, je dis souvent que la jeunesse, c'est très intéressant parce qu'ils peuvent réaliser tous les rêves que les gens plus âgés n'ont pas réussi à réaliser. Je préfère l'utopie d'une jeunesse que le désespoir de la fin.
Méditez sur cette phrase d'Alexis Michalik avant d'aller voter. Ça fait beaucoup de phrases à intégrer, de choses à digérer avant de voter.
On lui ressortira cette phrase dans 40 ans quand, sera,
quand je serai vieux.
Bien à l'aise.
Un autre auteur est à côté de vous, Alexis Michalik. C'est Thomas Bideguin.
Bon voilà. Donc effectivement, c'est à moi une fois de plus. Je viens vous parler moi à chaque fois de storytelling parce que je refuse de passer chez Bourdin ou au Monde. On ne veut pas de moi à l'école de Niel, mais bon, ici, ça va. Donc voilà, je viens vous parler une fois de plus de toutes ces petites histoires qui sont encore à 30% indécises et qui formeront un jour le grand récit du premier tour. Voilà, alors le thème du jour, c'est l'anticipation. C'est très important dans le storytelling, l'anticipation. Parce que les gens, ce qu'ils aiment dans la vie et dans les histoires, c'est anticiper. Si je vous disais, l'élection a eu lieu la semaine dernière et le nouveau président de la République, c'est Michel Pélon. Eh ben, on serait tous vaguement déçus parce que ce qu'on aime, c'est voir le truc se déplier. Ce qu'on aime, c'est voir les choses venir en essayant de deviner ce qui va se passer. Ce qu'on aime, c'est anticiper. C'est comme ça dans les histoires, c'est pareil dans la vie. Ce qui est génial pendant qu'on travaille, c'est de se dire que cet été, on va partir en vacances en Grèce. C'est ça qui est génial, c'est l'anticipation du voyage. Ce qui est génial, c'est pas quand EasyJet a perdu vos valises. On aime anticiper. Alfred Hitchcock, qui disait « Il n'y a pas de terreur dans un coup de fusil, seulement dans son anticipation ». Et c'est pour ça que quand un pistolero tient Clint Eastwood au bout de son Colt, il tire pas tout de suite. En général, il se met à raconter sa vie. Il dit « Quand t'as tué Ringo, t'as fait un pas de trop, blondin. » C'était le mari de Sheila, quand même. Et on déconne pas avec ça dans l'Ouest.
Vous avez l'air fier de celle-là, elle est très
mauvaise. C'était pour vous,
oui,
avec.
Moi, elle m'a plu.
C'était
mais...
pour vous. C'est comme le « Est-ce que Michel tord ?» Voilà, c'est pour vous. Voilà. « Est-ce que Laurence bloque ?» Ça, c'est pour vous, Charlie. Et « Est-ce que Pablo Mira ?» Peut-être un jour. Alors, voilà. Alors, donc, et c'est pareil, avec un coup de fusil dans la Sierra, une méga bombe en Afghanistan ou un coup de taser à 200 000 volts dans un aéroport. On a besoin de le voir venir. C'est l'anticipation qui crée la peur et l'intérêt du récit. D'ailleurs, si on veut savoir exactement ce que ça fait de recevoir une décharge de 200 000 volts, je pense qu'il suffit d'attendre le 7 mai. On sera fixé. Enfin voilà, d'ici là, on anticipe. Et c'est devenu un sport national. Qu'est-ce qu'on va devenir si Marine Le Pen passe ? Raconter des blagues sur France Inter, ça fera de nous quoi ? Des résistants ou des collabos ?
Eh oui.
Eh, va savoir. Le chèque des impôts en juin, on va l'envoyer à Marine comme ça, en lui disant « C'est bon, vas-y, achète-toi ce que tu veux ». Eh non. Voilà. On peut toujours fuir. Il reste cette solution-là. Partir très loin. Où ça ? Au Venezuela ? Oui, mais si c'est pour s'apercevoir que c'est pas Marine qui a gagné et qu'on est rattrapé par l'Alliance bolivarienne, à quoi bon ? Ça serait un peu comme fuir aux îles Caïmans et s'apercevoir que c'est Macron qui a gagné. Ça serait un peu comme se cacher en prison et tiens, que c'est Fillon qui gagne. Ça serait un peu comme se planquer au salon du photocopieur et bam, c'est Hamon qui remporte. Ça serait un peu comme fuir dans l'espace et paf, c'est Cheminade qui gagne. Ça serait, j'en ai plein comme ça, comme fuir au pays des nains et c'est Dupont, enfin voilà, ou comme se cacher en Corrèze et là, tac, ils annulent l'élection. Eh bien, c'est comme ça. Pour qu'une histoire existe, pour que le cerveau se mette à fonctionner, il faut qu'on puisse anticiper. Et on a besoin d'éléments pour ça. Ainsi, on sera friand d'indices dans les films policiers ou de sondages dans les élections présidentielles. C'est la même chose. On a besoin d'éléments pour pouvoir anticiper. On a besoin de savoir, par exemple, que la Corée du Nord a des missiles pour réellement craindre une guerre nucléaire. Bon, même si ces missiles ne marchent pas encore très bien. Apparemment, les Coréens ont besoin d'un petit peu de temps pour les faire fonctionner, mais pas trop. Quand on leur demande combien de temps ils ont besoin, ils disent 10 secondes. Non, 9, 8. C'est très drôle. Et non. Et donc... Non, ils y sont presque, mais pas tout à fait. Et ça, c'est très important, le pas tout à fait. Parce que dans les histoires, on aime anticiper, mais on ne veut pas être complètement sûr de ce qui va se passer. Au contraire. Alexander McKendrick, qui est un réalisateur qui a réalisé Le Grand Chantage, un chef-d'œuvre du film noir dans les années 50, disait « Le drame, c'est de l'anticipation mêlée d'incertitude. » Et c'est très important, l'incertitude. C'est encore vrai aujourd'hui, on a besoin d'incertitude dans la vie, comme dans les histoires, parce que quand le futur est certain, on n'a juste pas envie de se lever le matin. Si on m'a déjà raconté la fin du film, je ne vais pas au cinéma. Si je sais déjà qui a gagné les élections, je ne vais pas voter. Eh bien, le drame, on est en plein dedans. Dans ce mélange d'anticipation et d'incertitude. Et du drame à la tragédie, il n'y a qu'un pas. Alors, la question résistant ou collabo, c'est maintenant qu'il faut se la poser, en anticipant un petit peu sur le vote de nos chers concitoyens. On apprend au cinéma que les films d'anticipation, ce sont souvent pas autre chose que des films catastrophes. C'est comme ça, la prophétie est créatrice. Et quand on anticipe le pire, eh bien, souvent, on s'aperçoit qu'il a déjà eu lieu.
Thomas Bideguin, et là aussi on va méditer là-dessus avant allez-y. Dimanche. Est-ce que l'auteur de théâtre Alexis Michalik est d'accord avec le scénariste de cinéma ?
Très très optimiste en tout cas.
sur le besoin d'anticipation.
Je suis plombé pour la journée. Je suis d'accord, c'est Hitchcock disait, je crois qu'il disait que si vous mettez quelqu'un assis sur une chaise et qu'il y a une bombe qui explose, on s'en fiche. Alors que si vous dites au spectateur que la bombe est sous son siège, là ça devient
pas sûr. On va pouvoir le regarder pendant 10 minutes.
Bien sûr, non, mais c'est la base de tout suspense. Quoi.
Et vous saurez en tout cas qu'après la musique, il y a Guillaume Meurice qui arrive. Non. Ça aussi,
oui,
c'est l'anticipation. Ça se sait. Voilà. Et pourtant, là, on a quand même envie de
qu'est-ce
rester pour l'entendre.
Nous dire
on ne sait pas. Restez avec Alexis Michalik jusqu'à 18h.
Le jour, Calypso Valois, vous êtes sur France Inter, il y a un tweet.
Mais oui, il y a quelqu'un qui vous a repéré, Vanoun Acker.
Ah bon ?
Hier, personnage, aujourd'hui, Michalik, on est en mode beau-gossitude sur Annule Tout.
Bam.
Ah oui, mais
voilà, c'est le printemps.
Rachoubidou69 a lu dans votre jeu.
Oui, parce que Rachoubidou, je lui demande à côté de qui il est assis. Non, bah voilà.
Bah, en tout cas, Michel Thor, elle n'est pas encore venue. Et pourtant, j'insiste.
Oui, bah voilà. Alexis Michalik est avec nous. Vous êtes tous très jaloux. Ah ben, tant pis pour vous. Qui est allé voir Edmond au théâtre du Palais Royal avec Guillaume Santou et puis le porteur d'histoire.
Et 11 autres acteurs.
Et, oui. Bien sûr. Super. Qui ne sont d'ailleurs pas des têtes d'affiche et c'est ça non. La réussite aussi.
Et qui ne sont pas des mauvais comédiens non plus.
Qui sont excellents. Et le porteur d'histoire au théâtre des Béliers parisiens avant de voir le cercle des illusionnistes au théâtre de la Pépinière Opéra.
Je prends un peu de place dans ma loge à la Pépinière.
Oui.
On a partagé
la Pépinière.
Ah, ça veut dire qu'Alex Vizorek joue à la Pépinière, sachez-le.
Oh, je voulais pas le dire, si vous en parlez.
Alexis Michalik, à côté de vous, il y a Guillaume Meurice.
Oui, ben moi j'ai rendu visite à la France apaisée, figurez-vous, puisque c'est le slogan de Marine Le Pen. Et je suis allé à son meeting aux Élites de Paris et ça fait du bien. La France apaisée, vraiment, on en a besoin en ce moment. Il y avait un service d'ordre apaisé, voilà, des crânes rasés apaisés, des matraques complètement apaisées, des points américains, mais détendus, vous auriez vu ça. On était bien. Alors je suis rentré dans la salle apaisée également. Et forcément, bon, j'ai été repéré à peu près au bout de 20 secondes et pris à partie par des militants apaisés.
Vegan et gauchiste, quoi. Le candidat pour devenir une femme parfaite, quoi. Le changement de sexe, c'est pour vous, quoi. Être vegan, c'est à la mode. Changer de sexe, c'est à la mode.
Ah, la France apaisée et les fantasmes de la France apaisée. Ça m'avait manqué. Attention quand même, parce que voter FN, ça devient à la mode aussi. Hein. Je dis ça pour le prochain barbecue et les testicules de ce jeune homme. Alors, il y avait également des militants, des anciens militants tout aussi apaisés.
Le tracé du géniteur, en quelque sorte, de Jean-Marie, il y a très longtemps, c'est mon truc, voilà.
Mais ça a changé quand même depuis...
Ben oui, mais justement, ben il a peut-être fait des bêtises, hein, il a, et hélas, le diabolisage, c'est dommage.
Le diabolisage.
Ben oui, vous savez très bien.
Et oui, je sais que la France apaisée n'a toujours pas acheté de dictionnaire, a priori, hein, donc il y a eu diabolisage, on le sait, en tout cas discriminage, voilà, hein, du Front National, voilà, mais qui s'était refait depuis une image, enfin une imation, comme on dit dans la France apaisée, mais ça c'était avant la sortie de Marine Le Pen sur le Veldiv. Alors est-ce qu'on est d'accord avec ses propos dans la France apaisée?
Bien sûr, et encore, voilà, j'aurais mieux parlé que ça, moi, mais bon, oui, bien sûr.
Qu'est-ce que vous auriez dit, du coup?
Enfin bon, l'histoire du Veldiv, la repentance, je sais pas comment tourner ça, je suis pas... Et il me faudra une canette.
Oui, c'est vrai qu'avec avec une 8-6 dans la gueule, la France était un petit peu moins apaisée. Mais on reste dans l'apaisement, puisque Marine Le Pen avait même interdit la vente d'alcool sur le site. Enfin, pour les militants, hein, je veux dire, parce que j'ai vu le stand-up de Franck de la Personne. S'il était à jeun, c'est psychiatrique. Hein. Là, il faut consulter immédiatement. Mais bon, il y avait de l'apaisement. Voilà. Il y avait de la douceur, même, je dirais, de la douceur à son meeting. Pourquoi il aime bien Marine Le Pen, ce militant ?
Pour tout, hein, c'est une star, Marine.
C'est une star, mais alors ça me dit pas pourquoi vous l'aimez.
Je ne sais pas, c'est le cœur, c'est tout, voilà.
On vous sent presque amoureux.
Ouais.
Vous êtes amoureux ?
Ah ouais, carrément, ouais. Marie !
C'est le brame du militant FN, hein, qu'on entend le soir au fond des bois. C'est un peu flippant, mais ne paniquez pas, c'est de l'apaisement. Il y avait même des étrangers au meeting de Marine Le Pen, des étrangers apaisés, des Serbes, très exactement, avec leur drapeau. Mais c'est interdit, d'ailleurs, les drapeaux étrangers au meeting du FN, non ?
Oui, je sais. Ah. Oui, vous avez raison.
Ah, mince.
Ils ont dit, pas drapeau étranger, la même à entrée. Ils ont dit, vous ne pouvez pas entrer avec les drapeaux étrangers.
Eh ben alors.
Mais après, j'ai appelé le directeur de sécurité, qu'il me connaît. J'ai appelé Thierry Léger. Ils ont contacté Marine Le Pen. Elle a dit, oui, pour le drapeau serbe, elle peut passer.
Ok, les Serbes, c'est bon. Voilà, la Serbie de Tomislav Nikolic, hein, qui a nié dernièrement le génocide de Srebrenica. La Serbie apaisée, hein, comme on l'appelle. Alors, je ne suis pas resté longtemps avec les Serbes, hein, parce que je vous rappelle que discuter avec eux fait chuter votre espérance de vie à 15 minutes, ce qui est assez peu pour un chroniqueur radio. Toutefois, en ce qui concerne les autres étrangers, le discours des militants FN n'a pas changé, parce qu'en France, quel est le problème ?
Vous entendez parler qu'arabe, vous voyez des bonnes femmes voilées partout. Est-ce que vous trouvez ça normal ?
Oui, alors, en quoi, du coup, ça vous dérange, les femmes voilées ?
Il y a un truc, ça s'appelle l'identité française, la manière de s'habiller. Elle l'a dit tout à l'heure, vous n'avez qu'à l'écouter.
Oui, mais on a l'impression que vous avez peur de ça.
Les tremblements de terre, vous n'en avez pas peur, non ?
Mais quel rapport avec les tremblements de terre ?
C'est un phénomène de super... C'est-à-dire, c'est pour dire que Toute peur n'est pas illégitime.
Évidemment, et toute comparaison est bonne à prendre. Hein, les femmes voilées et le tremblement de terre, ça paraît évident. Une comparaison de niveau 5 sur l'échelle de Fatima Richter. Mais on peut aller plus loin, je vais vous dire, dans la comparaison avec un autre militant avec qui j'ai parlé, déclin de la civilisation française.
Écoutez, monsieur, moi, ça me rappelle, j'ai vaguement connu, c'est un peu loin, les derniers mois de l'Empire romain, monsieur.
Vous avez connu les derniers mois de l'Empire romain ?
Ah oui, psychologiquement, au niveau des chromosomes, la mémoire interne, ces derniers mois de l'Empire romain. Et puis...
C'est les derniers mois de l'Empire romain, ouais. Au niveau de la mémoire interne.
Ben oui, parce que je ressens ça.
Alors, je vous rappelle que l'alcool était interdit hein, dans l'enceinte du meeting. Donc là, la France est peut-être un petit peu trop apaisée avec un gros pétard. Mais dans la France apaisée, on n'est jamais à court de surprises. Et pendant que je parlais à ce militant, un autre en a profité pour me dire des mots doux à l'oreille. Écoutez ça.
Oui, excusez-moi, mon discours n'était pas très constructif. Hein.
Oh, c'était constructif, j'ai trouvé, moi. La chute de la civilisation dans les chromosomes, je l'ai rarement entendu, ça.
Il y a plein de choses que vous connaissez pas, monsieur.
Une ?
Vous êtes une honte.
On y va. Pourquoi ?
Vous êtes un pourri.
Ah, vous êtes une honte, vous êtes un pourri. Je trouvais d'un coup la France nettement moins apaisée sur le coup. Mais c'était sans compter mon nouvel ami à chromosomes et mémoire de l'Empire romain, qui, en entendant ça, m'a littéralement défendu, donnant à la fin de ce meeting une notion un petit peu surréaliste. Hein. Je vous passe la séquence en entier.
Il y a plein de choses que vous connaissez pas, monsieur.
Une ?
Vous êtes un pourri.
Quoi ? Ah bon, bah dites-moi ça au micro. Non, vous ne commencez pas à vous battre entre vous. Commencez pas à vous battre entre vous.
Mais c'est un PD. Tu l'écoutes même pas. PD, ça.
Vous pensez ?
La ruine de la France.
C'est la ruine de la France, ces mecs-là. Eh ben, je vais finir là-dessus. Je sais pas, peut-être que c'est un slogan plus honnête que la France apaisée.
Merci Guillaume Meurice qui rentrait avec ses deux dents de devant intactes. Et
j'ai été défendu par ce monsieur. Je vous remercie.
Alexis Michalik, on poursuit, parlons un peu de culture, parce que je pense qu'on en a bien besoin après ça. La gauche et la droite ont chacune leur propre définition de la culture. Et on est en droit de se demander si François Fillon et Marine Le Pen en ont une, d'ailleurs, puisqu'ils sont les deux seuls principaux candidats à ne pas avoir répondu à Télérama sur le sujet. Voici un genre de conversation qu'ils pourraient avoir avec une journaliste de Télérama.
Oh, de toute façon, le mariage tel qu'il existe aujourd'hui est le plus odieux de tous les mensonges. La forme suprême de l'égoïsme. C'est dans quoi, ça, d'elle ?
Ah, ça, je sais pas.
Tolstoï, la sonate à Kreutzer. Des formules simples, le bon sens. Vous savez, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié.
Ça, c'est joli ce que vous venez de dire.
Eh oui, mais c'est pas de moi.
Ah bon ? Et c'est de qui ?
Chez le malade Gerloff.
Ah, vous savez.
Vous connaissez pas ?
Ah, pas du tout.
Une Suédoise, prix Nobel 1909.
Dites-moi, mais vous vivez constamment avec des intellectuels ?
Ah non, pas avec, disons, à côté.
Extrait de La Bonne Année.
Oh, Lino Ventura, François Sapir.
Exactement. Louche. Merci Alex, effectivement. C'est un article du Monde diplomatique qui a attiré notre attention et qui pose la question d'abord de la conception de la culture par les candidats de droite, les candidats de gauche. Est-ce que déjà il y a une différence dans la conception, de la définition de la culture selon vous, ou la façon dont on l'appréhende, selon qu'on soit de droite ou selon qu'on soit de gauche ?
Je vais dire des énormes banalités si je commence à parler. Non, je pense que chacun a ses sensibilités. Après, ça dépend à quel niveau de droite on est, à quel niveau de gauche on est, je pense aussi. Hein. Il y a un gros centre un peu flageolant. Je pense qu'on peut tous être émus par une œuvre, quelle qu'elle soit, et d'où on vienne. Voilà, ça peut atteindre tout le monde. Il n'y a pas de clivage à cet endroit-là. Après, je pense que c'est plutôt une question de tradition.
Effectivement, mais vous mettez le doigt dessus. À droite, on parle davantage de socle de l'identité pour définir la culture, ce qui est d'ailleurs la définition de l'UNESCO. Découvert ça en lisant le Monde Diplo. Et plus on va à gauche, plus on parle d'émancipation. Et par exemple, Benoît Hamon dit la culture est émancipatrice et créatrice de liens sociaux. Donc il y a deux différences. Mais ce qu'explique l'article, regrette qu'il y ait pas que les candidats n'envisagent jamais la culture comme moteur de transformation de la société et du monde. Or, c'est un peu cette vision-là, bien quand sûr. Même, puisque vous voulez que le théâtre soit accessible à tous. Donc, il y a derrière un levier de changement, quand même.
Oui, bien sûr. Et moi, en plus de ça, j'ai des origines multiculturelles diverses. Ma mère est anglaise, j'avais des origines australiennes, mon grand-père était polonais. Enfin bon, on a quelque chose où, pour moi, l'intérêt de la culture, c'est justement ce métissage. Elle est enrichie de chocs de civilisation, qui est n'importe quelle culture. Hein. Elle meurt si elle reste... Si elle reste solitaire comme n'importe quelle civilisation, si un petit village isolé finit par mourir en fait. Donc pour moi justement, elle est à l'image de ce que la société devrait être ou est en tout cas la société française. c'est un choc de culture qui crée quelque chose de merveilleux auquel tout le monde s'identifie. Voilà.
Thomas Bideguet, vous acquiescez.
Je suis absolument d'accord avec le cinéma, exactement. On a le même travail à faire. Travail de représentation, comme ça, du monde tel qu'il est maintenant. Et c'est fou de voir qu'effectivement, il y a deux attitudes chez les candidats. Il y a ceux qui n'en parlent pas et ceux qui s'en fichent. C'est un peu les deux manières de traiter la culture.
Ou ceux qui, très à droite, revendiquent une espèce d'identité culturelle française qui correspond
à quelque chose. Mais parce qu'on
conserve la conservation du patrimoine.
Oui, folklorique, quoi.
J'ai une vraie question par rapport à la culture de droite, la culture de gauche. Est-ce que vous avez eu des bonnes critiques dans L'Humain et dans Valeurs Actuelles, et laquelle des deux vous a fait le plus plaisir?
j'ai eu des bonnes critiques dans les deux, absolument, parce qu'au final c'est une histoire d'homme, c'est-à-dire qu'on peut avoir des gens d'hommes, de femmes, on peut être de droite, de gauche et se retrouver à être d'accord devant un film, devant une série, devant une pièce.
Donc, et les soutiens érudits de François Fillon doivent bien souffrir en ce moment, parce qu'il y en a aussi, la culture n'est pas que le monopole de la gauche, bien sûr, il y a plein d'érudits à droite aussi qui doivent se sentir bien seuls.
Et on ne les salue pas, quand même.
Si,
on les salue quand même.
Bien sûr, on les salue. C'est la culture qui nous rassemble. Il est temps d'écouter l'édito de Pablo Mira. Et quand on pense à Pablo Mira, on pense à Diderot, justement, Voltaire, Montaigne, bref, tous les lycées techniques où il s'est fait virer pour finir ici à France Inter, comme quoi.
Comme quoi. Charline, vous savez, pour moi, il y a deux phénomènes qui gangrènent la démocratie, l'abstention et ces gens qui ont donné leur voix à Amir à l'Eurovision. Vision, évidemment. Mais pour mieux comprendre ce phénomène de l'abstention, commençons déjà par analyser quelques chiffres, Charline. 34% des électeurs ne comptent pas aller voter dimanche, ce qui représente 11,5 millions de personnes. Alors traitez-moi de parano, hein.
Parano.
Ne me traitez pas de parano, Thomas. Traitez-moi de parano, peut-être, donc. Mais si on prend ce chiffre de 11,5 millions, qu'on le multiplie par 34%, et que l'on calcule vraiment mal, on tombe sur 666, le chiffre de la bête, Guillaume. Alors, comment expliquer une abstention aussi élevée, Alex? Parce que moi, l'abstention, c'est comme l'orgasme féminin, je ne comprends pas. Eh bien, on va commencer avec un sondage Ipsos, hein, qui révèle que 82% des Français ont, en fait, une vision négative de la politique. Parmi eux, écoutez bien, 40% parlent de déception, 20% de dégoût, 13% parlent de colère, 9% d'indifférence. Et ils sont terribles, ces chiffres. Un électeur ne devrait pas ressentir pour la politique ce que ressentent les conquêtes d'Alex après une nuit d'amour. Et là, tel que c'est parti, on se dirige quand même vers un taux d'abstention qui va nous rappeler cette triste année 2002. Et je vous le dis, Charline, personne n'a envie de revivre ce cauchemar.
Ah, vous parlez de Jean-Marie Le Pen au second tour ?
Non, David Charvet en tête du hit-machine, ça n'a aucun rapport. Et puis, de toute façon, il faut voter, point barre. Et puis, parce que ne pas voter, c'est quand même prendre le risque de voir passer le pire des candidats. Et je crois que personne n'a envie de voir Jean Lassalle nommer un bouquetin à Matignon. Tiens, au fait, Charline, simple question, vous allez voter ou pas ?
Bah non, Pablo, parce que moi, je suis belge, vous savez bien.
Oui, excusez-moi, j'avais oublié cet handicap. Bref, le but, c'est pas de stigmatiser évidemment les abstentionnistes, mais quand même, il y a des tas d'autres pays où les citoyens rêvent d'obtenir le droit de voter pour le candidat ou la candidate qui les décevra le mieux. Et cette année, ils sont gâtés, les Français d'ailleurs, en la matière. Faut dire, et vous serez d'accord avec moi, Charline, on a vécu une campagne de qualité où tous les sujets ont été abordés vraiment.
Non, pas vraiment, Pablo, parce que j'ai pas vraiment entendu parler de culture, par exemple.
Ouais, alors vous avez pas bien regardé, parce que c'était dans le thème chômage, deux points, c'est sangsues d'intermittents du spectacle qu'il faut éradiquer.
C'est vrai.
Mais oui, mais si vous ne savez pas lire entre les lignes, moi je peux rien faire pour vous, Charline. Alors, parce que des prises de position fortes, il y en a eu plein sur d'autres sujets que la culture, comme le service militaire obligatoire pour les jeunes chez Macron et Le Pen. Alors j'entends déjà, oh les pauvres, ils vont jamais tenir, ça va être dur pour eux, le service militaire. Et là je dis, vous inquiétez pas, voilà, oui, ce sera dur, mais ce sont des militaires, je suis sûr qu'ils survivront à vos enfants. Et il y a eu, aussi la question du Made in France. Énorme question dans cette campagne, avec Hamon qui veut le soutenir financièrement, Dupont-Aignan qui veut un étiquetage pour les produits faits en France, et Mélenchon qui lui aussi veut un étiquetage Made in France pour tout produit fabriqué au Venezuela. Et quand ce ne sont pas les propositions des candidats, moi je trouve que ce sont les candidats en eux-mêmes qui offrent quand même aux abstentionnistes un large éventail de choix, comme le retour des candidats qui assument ouvertement leur foi aussi, à commencer évidemment par... François. Par François Fillon, qui n'a jamais caché qu'il croyait en Dieu. Et puis aussi Emmanuel Macron, hein, qui n'a jamais caché qu'il croyait en ce que vous voudrez du moment que vous votez pour lui. Donc, vous voyez, et ce sera ma conclusion, même si vous êtes indécis, même si vous ne croyez plus en la politique, il faut aller voter. C'est important et non une élection présidentielle. Ce ne sont pas que des promesses lancées en l'air qui ne seront jamais tenues. Ce sont aussi des choses jamais promises, mais qui seront passées en force grâce au 49-3. Allez, salut.
Pablo Mira, merci. Allez, survolons ce dernier sujet avec vous, Alexis Michalik. Jean Cocteau disait « Les Italiens sont des Français de bonne humeur ». Et on n'entend jamais dire « heureux comme un Français », bizarrement. Le magazine Society a posé la question à pas mal d'entre vous dans toutes les régions. Cette question « Quand avez-vous été heureux de vivre en France ?» pour la dernière fois.
T'as pas faim ?
Non, j'ai envie de rien. Je suis bien.
C'est vrai ? T'es bien avec moi ?
Ah, vous pouvez pas savoir comme je suis bien quand je suis avec vous. Je respire, je suis vivante. Ça doit être comme ça quand on est heureux.
Tout ce que tu dis, ça tient pas en l'air. Tu dirais ça à un autre que moi, je trouverais ça idiot, mais tu me le dises comme ça à moi, bah, c'est marrant, ça me fait plaisir. T'as de beaux yeux, tu sais.
Embrassez-moi.
Ben voilà, et entendre qu'il y a des brumes, ça rend heureux, tout simplement. On pourrait clore le sujet là, mais je vais quand même vous demander. Society a posé cette question à plein de Français qui témoignent. C'est curieux de poser cette question. Là, quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez été heureux en France ?
Non, mais pourquoi pas ?
Oui, pourquoi pas ? Ça veut dire que c'est pas si facile.
On n'a pas l'habitude de se dire heureux, mais bon, c'est vrai qu'on est un peuple qui gueule beaucoup, quoi. Mais c'est aussi comme ça qu'on a obtenu plein de choses. Mais moi, je suis très heureux, en tout cas.
Vous allez vous poser la question.
À la sortie de vos pièces, les gens, il y a un souffle de bonheur, et j'imagine que ça doit vous faire très très plaisir. Je sais pas si vous venez traîner un petit peu à la sortie.
Bien sûr, moi, je suis quelqu'un d'assez optimiste. Et puis voilà, moi, j'aime beaucoup cette France extraordinaire. Moi, je suis un passionné d'histoire, en plus, donc j'adore comment ça s'est construit. Et comment toutes ces myriades de cultures se sont entrechoquées pour former ce paysage aujourd'hui merveilleux, parce qu'on est un pays magnifique, parce qu'on a à la fois des montagnes de dingue et des plages sublimes, des îles magnifiques, que ce soit la Corse, la Réunion,
la Guyane.
Et puis voilà, des villes superbes. Enfin bon, c'est quand même un pays merveilleux, la France.
Et c'est vrai que dans Society, il y a pas mal de Français qui témoignent et qui disent de retour de l'étranger, je me dis que c'est quand même bien la France. Est-ce que là aussi, une des solutions, souvent, c'est pas de sortir un peu de son pays. Peut-être que le Français sort pas assez ou n'a pas l'occasion, malheureusement.
Il aille en Belgique et il verra.
Et lorsqu'il revient, se dit ce pays est formidable. Ouais. Donc il n'y a pas que le pouvoir d'achat.
Non. Moi, j'étais à San Francisco le jour où Donald Trump est passé. Mm-hmm. Je me suis dit, putain, c'est pas mal la France quand même.
Attendez le 8 mai quand même.
Oui. Et c'est une question qui vous inspire autour de la table. Non, la dernière fois vous avez.
Est-ce que vous trouvez que les Français sont plus grincheux, plus déprimés ou pas ?
Ah ben, sacrément, oui.
C'est vrai,
sacrément.
Ça se voit,
c'est un trait de caractère qui nous frappe.
Ouais, mais vous êtes à Radio France aussi, ça doit biaiser. C'est pas une maison de gens heureux, on peut pas dire ça.
C'est frappant, mais bon, ce côté râleur qui est cliché, c'est aussi la volonté de conserver des choses, de garder des acquis sociaux, etc. Et qu'on comprend très bien que ça fait partie de ce cliché. Alexis Michalik, comme vous êtes aussi comédien, acteur, il y a un auteur qui rêve de vous faire jouer.
Le sketch de fin d'émission. Non, mais surtout, un truc qui va vous parler, j'ai lu dans la presse que les policiers au Tadjikistan doivent aller au théâtre pour élever leur niveau culturel. C'est le ministère de l'Intérieur qui les oblige à aller une fois par an. Alors on s'est dit, ça c'est une excellente idée. Et pourquoi pas faire ça en France ? Vous êtes le chef du groupe qui emmène les petits policiers au théâtre pour la première fois. Guillaume, Charline et moi-même, attention, on est un de la police.
Bon alors, ça démarre là ?
Ben, un peu de patience, on n'a pas encore entendu les trois coups.
Dans la police, on les connaît déjà les trois coups.
Bam ! Coup dans les côtes !
Coup dans le genou, bam !
Coup dans les parties génitales !
Du calme, hein. Ici vous êtes au théâtre, pas au commissariat.
Comment on fait la différence ?
Ben, regarde autour de toi, il y a moins de noirs, moins d'arabes.
Ah ouais, c'est vrai.
Mais enfin, c'est raciste ! En plus, la pièce, c'est Othello.
Ah, c'est un jeu de société ?
Mais non. C'est une pièce et le personnage principal est de couleur.
Ah, dès qu'il passe la tête, contrôle les papiers, allez hop.
Paf, et matraque, je vais lui la mettre.
Non, vous bougez pas. Hein.
Okay. À propos, ce serait pas l'heure de l'apéro là, tiens.
Bon, silence, la pièce commence.
Ah, non, c'est quoi ces déguisements là ? C'est carrément nul.
Ce sont des costumes. Les nôtres, ils sont plus jolis. Hein.
Ouais.
Et pourquoi les gens sur scène parlent si fort ?
Ça vous plaît pas ?
Négatif.
Pourtant, on est dans un des plus beaux théâtres subventionnés.
Quoi ? C'est avec l'argent public qu'ils peuvent dire des conneries habillés n'importe comment là ?
Bah, comme vous, hein.
Chut.
Elles sont bizarres, les lumières, là, non?
C'est un éclairage de théâtre. Ah. Alors qu'avec un bon gyrophare...
Une bonne lumière dans les yeux pour faire parler tous ces dégénérés.
Bon, alors, pardon, hein, mais vous êtes vraiment pas prêt de remporter un Molière.
Un quoi?
Si, si, je sais, c'est quoi, c'est le truc, là c'est
Oui, mais, tu sais, la clause Molière, là, pour mettre en prison ceux-là qui causent pas français sur les chantiers.
C'est ça.
Là,
voilà, ok, j'abandonne, je rentre.
Ah, rentre à la maison, génial.
Génial, il y a un bon Julie Lescaut sur TF1.
Blague à part, donc le Tadjikistan qui emmène les policiers au théâtre.
C'est génial.
Eh ouais.
Allons-y, en voyant tous les fonctionnaires.
Ça, ça pourrait être une mesure, ça. Oui, tous les fonctionnaires, mais certaines catégories peut-être de fonctionnaires aussi.
Oui, peut-être. Mais il faudrait envoyer les policiers et les détenus.
Pas mal. Voilà. Ouais. Alors après, il faut que le théâtre va déjà parfois déjà dans les prisons parce que c'est vrai que emmener les détenus au théâtre, ça va faire
compliqué. Hein.
Ouais. Un petit peu compliqué. Ouais. Je sais pas si les 12 comédiens de Edmond vont est-ce qu'ils vont pas avoir les chocottes en voyant arriver Fleury Mérogis.
Surtout la vie, la salle se vide à l'entracte.
Ouais, effectivement.
Il n'y a pas d'entracte.
Alexis Michalik, merci d'avoir passé cette heure avec nous.
Merci.
On était très heureux de vous recevoir. Je rappelle que la pièce Edmond au théâtre du Palais Royal, si vous trouvez encore de la place, parce que c'est un succès phénoménal.
Le succès de l'année.
Avec Guillaume Santou et les 11 autres comédiens. Et Guillaume Santou dans le rôle d'Edmond Rostand. Il y a le Porteur d'Histoire au Théâtre des Béliers Parisiens du jeudi au samedi à 19h et le dimanche à 15h. Et à partir du 27 mai, ce sera jusqu'au 9 septembre, le Cercle des Illusionnistes au Théâtre de la Pépinière Opéra et puis à La Réunion, Intramuros et ailleurs.
On est complet quand même, hein, ça va faire du droit d'auteur.
Merci à tous, à toute l'équipe, évidemment. Et puis je vais laisser le mot de la fin au senior qui vote Macron.
Le petit prince est en marche. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci mamie.